Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Et Alexandre de Saint-Aignan pour le journal. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Dans un village de Normandie, une classe de primaire hors de contrôle.
Les institutrices se font frapper, insulter. Le maire et les parents d'élèves en ont marre. Ils menacent de bloquer l'école. Dans ce journal également, Éric Dupond-Moretti veut redonner confiance en la justice. Une légère baisse des chiffres de l'épidémie dans les Bouches-du-Rhône. Un reportage exceptionnel en Irak à deux jours de la visite du pape. Et puis le foot, c'est l'heure du coup d'envoi pour 5 matchs de Ligue 1, notamment Lyon contre Rennes.
RTL Soir.
Un problème de violence scolaire dès le plus jeune âge à l'école primaire de Saint-Éloi-de-Fourques dans l'Eure. Vincent Serrano, vous êtes rendu sur place pour RTL. Les enfants en question ont entre 6 et 7 ans.
Oui, puisqu'il s'agit d'une classe de CP-CE1. 22 élèves qui ont tous du mal à apprendre aujourd'hui. On comprend pourquoi, me disent Vanessa et Nathalie, en parlant de leur petit garçon qui, tous les jours, en rentrant à la maison, leur raconte ce qui se passe à l'école.
Des menaces au couteau, des coups dans le ventre aux autres enfants, des jets de chaises, de tables, des insultes.
Des menaces au couteau, obligés de retirer les couteaux de la cantine. Alors, ils ont que 6 ans, c'est quand même des mots qui sont durs, même violents des fois. Ça, il se fait rabaisser régulièrement, il a du mal à dormir. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je n'aime pas voir récupérer mon fils à la sortie de l'école, voir l'enseignante qui est mal parce que la journée s'est mal passée. Qu'est-ce qu'on fait après? Nous, ce qu'on veut, c'est d'alerter. Et là, on protège nos enfants.
La réponse de l'académie, c'est de dire qu'il n'y a qu'un enfant ici dans cette classe qui pose problème. Un enfant en situation de handicap, c'est trop difficile à entendre pour vous.
Oui, parce qu'il y a tout un groupe d'enfants. C'est un groupe d'enfants qui agissent ensemble.
Donc maintenant, à eux de nous trouver la solution. Il n'a pas la baguette magique, nous on ne l'a pas. Mais par contre, ils ont les moyens. Donc qui nous les donne? Du personnel adapté.
Ce que s'apprête à faire l'éducation nationale avec l'envoi dès lundi de 3 experts pour évaluer la situation. Ce qui risque de ne pas être suffisant pour les parents qui veulent eux un dédoublement de classe, sans quoi ils bloqueront l'école.
Le reportage de Vincent Serrano en Normandie pour RTL. Après l'agression d'un photographe du journal L'Union à Reims ce week-end, l'auteur présumé, un homme de 21 ans, a été placé en détention provisoire, mis en examen notamment pour tentative de meurtre aggravé. C'est un multi-récidiviste, déjà condamné à 8 reprises. Le journaliste âgé de 65 ans, lui, est toujours entre la vie et la mort.
Il y avait tout à l'heure une marche blanche organisée à Bondy 5 jours après la mort d'Aymen.
Cet adolescent de 15 ans, jeune boxeur prometteur qui avait été tué par balle, deux frères de 17 et 27 ans ont été mis en examen. Un millier de personnes se sont rassemblées cet après-midi pour lui rendre hommage. Valentin Boisset.
Oui, tout d'abord, beaucoup d'enfants devant les fleurs déposées sur le lieu de la mort d'Aymen. Dans les discussions, chacun le décrit comme une figure du quartier ici, brillant en boxe et tout juste sélectionné pour les championnats de France. Sabrina s'entraînait avec lui.
Ça nous a fait un très très gros choc parce que c'était vraiment quelqu'un de brillant. Le message, c'est que la violence, elle stoppe parce que c'est assez compliqué, que plus personne ne reçoit des balles perdues et qu'ils arrêtent ces règlements de compte et ces trucs à deux balles.
Le cortège est ensuite passé devant une maison de retraite. Les résidents ont décidé de rendre hommage à leur fenêtre. À l'arrière du cortège, de nombreuses mères de famille, évidemment touchées, elles aussi, comme Nadia.
La prochaine fois, ça va taper où? La police, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait?
À l'arrivée, une minute de silence a été observée pour ce jeune qui, selon le maire de Bondy, faisait partie ici de ceux sur qui l'on pouvait toujours compter.
Valentin Boisset pour RTL. Objectif, redonner confiance dans la justice. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a dévoilé les principales mesures de son projet de réforme. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
L'une des propositions les plus délicates consiste à encadrer l'enquête préliminaire.
Oui, aujourd'hui, ces enquêtes ne sont pas limitées dans le temps. Il faut rappeler que la fameuse affaire des Fadettes avait mis près de 6 ans avant d'être clôturée. Le garde des Sceaux veut donc imposer une durée maximum de 2 ans. Autre question sensible, comment faire en sorte que les mises en cause soient informées du contenu du dossier sans que l'efficacité des investigations ne soit compromise? Avec ce nouveau texte, le mis en cause aura accès au dossier au bout d'un an s'il fait l'objet d'une audition ou d'une perquisition et sans délai en cas de fuite dans la presse.
Et puis Éric Dupond-Moretti souhaite également que certaines audiences soient filmées.
Oui, on ne parle pas de retransmettre en direct un procès à l'américaine, mais de quelques tournages choisis et validés avec l'accord des parties. Un divorce, des comparutions immédiates diffusées au grand public à la télévision. L'idée, c'est de faire de la pédagogie pour montrer aux Français les rouages de la justice.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Il y a également une surprise dans cette réforme. La suppression des crédits de réduction de peine automatique pour les détenus, une mesure qui fait déjà polémique. Éric Dupond-Moretti l'expliquera demain, puisque le ministre de la Justice se rendra à la prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Face à l'épidémie de coronavirus, Alexandre, le gouvernement aperçoit, dit-il, la lumière au bout du tunnel.
Les ministres étaient réunis ce matin autour d'Emmanuel Macron pour un nouveau conseil de défense. À la sortie, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a évoqué un retour à une vie plus normale, peut-être dès la mi-avril. Le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer demain soir pour faire le point sur la situation dans les 20 départements sous surveillance renforcée. Parmi eux, les Bouches-du-Rhône, où les chiffres sont certes élevés, mais ça commence à baisser. Le professeur Dominique Rossi de l'APHM, les hôpitaux de Marseille.
Quelques indicateurs tournent au vert. Que l'incidence baisse aujourd'hui, on a déjà l'effet sur l'hospitalisation classique qui commence à baisser, mais on n'a pas du tout encore l'effet sur le nombre de malades en réanimation. Et on a toujours un afflux très important en réanimation de malades non-Covid. Donc on a à gérer ces deux flux, c'est totalement imprévisible. Je me garderai bien aujourd'hui de faire des prévisions. Il y a beaucoup de choses que l'on ignore, que l'on ne comprend pas très bien. Et nous, on gère au jour le jour.
Des propos recueillis par Adrien Quintard pour RTL.
Un nouveau plan social en vue chez SFR.
L'opérateur télécom veut se séparer de 1700 salariés. Ça représente 17% de son effectif, notamment dans les boutiques. Il y avait déjà eu 5000 suppressions de postes en 2016, alors que l'entreprise, plutôt financièrement, est en bonne santé. Manuel Da Silva est en colère. Il est représentant UNSA chez SFR.
La colère, oui, parce qu'une entreprise qui dégage des bénéfices au sein du groupe, c'est pas compréhensible. Donc effectivement, ce chiffre nous paraît énorme. Donc on est assez surpris. On est un peu inquiet, je le cache pas. Donc là, c'est tout frais, tout chaud. Et nous avons une grande réunion demain au sein du groupe pour préparer les futures négociations sur ce projet-là que l'entreprise vient de nous annoncer aujourd'hui. On est très très surpris, oui.
Des propos recueillis par Éric Vanier pour RTL.
Une information qui tombe à l'instant. 8 personnes blessées ce soir à l'arme blanche dans une attaque terroriste présumée. Ça s'est passé en Suède, on n'en sait pas davantage, mais évidemment on y revient dès qu'on a quelques développements. Dans un instant, on ira également en Irak sous un déluge de feu. Et c'est dans ce contexte que le pape va se rendre là-bas dans deux jours.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Otto.
19h et presque 9 minutes, la suite du journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. En Irak, c'est une pluie de roquettes qui tombe ces jours-ci. Mais visiblement, il en faut davantage pour impressionner le pape François.
Une base militaire des États-Unis a été prise pour cible. Un sous-traitant américain est mort. Il a fait une crise cardiaque. Des attaques qui se multiplient depuis quelques semaines. Émilie Beaujard, vous êtes l'envoyée spéciale de RTL en Irak. Le souverain pontife maintient sa visite sur place dans deux jours, malgré la crainte d'un attentat.
Oui, les forces de sécurité ici l'assurent, rien n'a été laissé au hasard. Les routes ont été sécurisées, des checkpoints ont été installés, notamment pour aller à Mossoul et Karakoch, au nord de l'Irak. Chaque voiture qui passe les contrôles est ainsi arrêtée et fouillée. Dans ces villes, les policiers et soldats irakiens sont déployés en nombre, ils patrouillent jour et nuit et ils font également plusieurs rondes quotidiennes sur les sites que visitera le pape François. Tout le matériel est aussi passé en revue. Par exemple, hier, c'est l'hélicoptère que le pape doit utiliser pour aller à Mossoul, qui a été testé en conditions réelles, escorté par deux autres hélicoptères. Une fois que le pape sera en Irak, les forces spéciales irakiennes et les gendarmes du Vatican assureront sa sécurité rapprochée pendant tout le voyage. Le souverain pontife se déplacera alors non pas en papa mobile, mais en véhicule blindé. Et puis, il y a aussi la sécurité sanitaire du pape. Le public sera tenu à distance la plupart du temps et surtout, toutes les personnes qui seront amenées à côtoyer le souverain pontife devront avoir été testées négatives au Covid-19.
L'envoyé spécial de RTL en Irak, Émilie Beaujard, avec Jonathan Griveaux pour RTL. Un geste d'apaisement d'Emmanuel Macron qui reste en travers de la gorge du Rassemblement National. Le chef de l'État a officiellement reconnu hier que le militant Ali Boumendjel avait été torturé et assassiné par l'armée française durant la guerre d'Algérie. Impossible à accepter pour le vice-président du Rassemblement National, Louis Alliot, dont le parti a historiquement soutenu l'Algérie française.
Mais ça m'inspire, je vais vous dire, du mépris. Le mépris qu'il a pour les victimes de la guerre d'Algérie française. C'est-à-dire les harkis qui ont été abandonnés à un crime abominable, les pieds noirs avec, évidemment. Et puis tous les soldats français qui sont morts, torturés par le FLN. Et ça, c'est du mépris du président de la République pour donner des gages à je ne sais qui. Et en retour de quoi, d'ailleurs. Et la seule chose que j'y vois, c'est une concession faite un électorat dont il espère un bénéfice électoral au moment de la présidentielle, mais il le fait sur le dos de la mémoire et de morts français ce qui n'est pas très glorieux.
Louis Alliot du Rassemblement National qui répondait à Marie Mollet. Gérald Darmanin promet des contrôles dans 89 mosquées soupçonnées de séparatisme. Dès le moment où sa loi sera promulguée, le ministre de l'Intérieur défendait tout à l'heure son texte devant le Sénat.
Le football, il y a 5 matchs de Ligue 1 en cours. C'est parti depuis 19h maintenant, Christian Olivier.
C'est la 28e journée, 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h. Deux belles affiches, d'abord le direct. Deux de ces belles affiches ont lieu dans la région Rhône-Alpine, entre les frères ennemis. Enfin, pas entre, parce que c'est à distance bien évidemment. Mais tout de même, faut le noter, Lyon par exemple. Lyon, 3e du championnat, qui reçoit le Stade Rennais. Rennes qui n'a pas encore accueilli son nouvel entraîneur, qui est un ancien Lyonnais, Genesio, qui s'installera sans doute le week-end prochain en Coupe de France. Lyon-Rennes, Raphaël Vantard.
0-0 ici au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Des Bretons qui vont essayer de sortir de la spirale de mauvais résultats qui a poussé leur entraîneur Julien Stéphan à démissionner. Côté Lyonnais, les hommes de Rudy Garcia vont tout faire pour rester en course pour le titre. Une victoire d'ailleurs leur permettrait provisoirement de prendre les commandes de la Ligue 1 avant les matchs de 21h.
Et donc toujours, merci Raphaël, 0-0 donc. Et toujours dans la région, Saint-Etienne qui reçoit l'étonnant promu, le Racing Club de Lens, 6e au classement. Serge Peillot.
Oui, 0-0 après 13 minutes de jeu à Geoffroy Guichard. Une seule véritable occasion de but, elle est stéphanoise, un tir de Camara dans la surface de réparation, contré in extremis par la défense lensoise. On s'observe toujours entre les deux équipes, 0-0 entre Saint-Etienne et Lens.
Autre étonnant promu, Metz 5e, 0-0 face à Angers actuellement, Brest face à Dijon, 0-0 actuellement, et un but un seul grâce à Amine Gouiri, le buteur de l'OGC Nice. Nice qui mène face à Nîmes par un but à 0, et donc à partir de 21h, Bordeaux-PSG, Lille-Marseille, Strasbourg-Monaco, Montpellier Lorient et Nantes-Reims. Un prochain point à 19h30.
Oh bah oui, puis vous revenez avec des buts, s'il vous plaît, monsieur Olivier.
On essaiera de faire mieux.
Votre standing, là, un petit but.
Il en prend un coup, effectivement.
Hein, franchement, non, allez, ça va s'arranger. Merci à tout à l'heure et merci à tout à l'heure également, Alexandre. La météo, Peggy, elle est aussi tristoune que les scores sur les stades de Ligue 1 pour
c'est
demain.
Vrai, oui, surtout sur la moitié nord, parce qu'on aura pas mal de nuages, Thomas, avec une bande pluvieuse entre la Lorraine, la Bourgogne, jusqu'aux Charentes le matin, sur les Hauts-de-France également, et puis dans l'après-midi, les averses, elles seront plus marquées sur les frontières du nord, et entre l'Alsace, la Franche-Comté et le nord de l'Auvergne. Ça restera nuageux sur le nord-ouest l'après-midi, mais avec moins d'averses. Sur la moitié sud, vous commencerez la journée avec du soleil, alors sauf entre le Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées, là, il y aura pas mal de grisailles, mais dans l'après-midi, terminé le soleil, sauf entre PACA et Corse, là il va résister. Sinon, entre l'Aquitaine et les Alpes, le ciel sera bien, bien voilé. Une petite averse également ne sera pas à exclure au pied des Pyrénées. Les températures, elles vont commencer à baisser demain de 1 degré à Aurillac, à 9 à Toulouse le matin, 6 à Lille et Toulon, 8 à Paris. Et pour les maximales, on perdra entre 3 et 8 degrés en moyenne.
On va le sentir quand même. Hein.
Voire plus par endroit. Ouais. Il a fait 17 aujourd'hui à Lille. Écoutez bien, demain, il n'en fera plus que 6. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein.
Bah, 17 pour
allez,
arriver
vous
à
êtes
6,
bon
on
en
perd 11.
Bravo,
c'est ça
exactement. De 18
j'ai
à Reims.
J'ai un doute entre 9 et 11, mais je ne sais pas si c'est possible. Ça va être 11.
De 18 à Reims aujourd'hui, vous allez passer à 10 demain.
Ça, c'est facile, on en perd 8.
Exactement. 12 à Paris, alors qu'il faisait 17 aujourd'hui.
12 à 5.
Bravo.
Ouais.
On s'arrête là sur les maths. Hein. Ouais, vous êtes bon en maths, tout va
non,
bien.
Mais non, calcul à tort.
Ah, voilà,
c'est pas un calcul à tort.
Très bonne vanne. 12 également à Orléans, 14 à Strasbourg, 15 à Limoges et Nice, 17 à Agen et encore 18 à Auch.
Et pour la fin de la semaine alors?
Bah, vendredi, ce sera encore très mitigé avec des averses sur le centre-est, de la neige même en montagne, humide aussi sur les Pyrénées. Ailleurs, il fera plutôt beau en moyenne, sous des températures qui vont encore baisser, une moyenne de 8 au nord. Ce sera un petit peu frais pour la saison, 14 au sud. Et cette baisse, elle va se confirmer ce week-end avec de nombreuses gelées matinales, mais le ciel sera beaucoup plus lumineux. Il fera beau globalement.
Il fera beau
globalement.
On est content alors. Hein. Merci beaucoup, Peggy.